Vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour votre rendez-vous, votre fidélité à notre rendez-vous, pardon, de chaque jour. On est fait pour s'entendre. C'est le magazine qui vous écoute tous les jours entre 14h30 et 15h30 en direct sur RTL. Vos témoignages donnent des couleurs à nos conversations. Alors vous êtes les bienvenus au 3210 ou sur nos réseaux sociaux. Je vous attends. Et sans plus attendre, place au sujet du jour. En 2020, écoutez bien, un internaute français sur quatre a été victime ou témoin de cyberharcèlement. Un sur quatre. Moqueries, injures, menaces de viol, de mort, photomontage, diffusion de rumeurs, diffusion de vidéos et photos personnelles, canulars téléphoniques. La période de confinement a favorisé l'expansion du harcèlement et de la haine en ligne. Alors, pouvons-nous tous en être victimes? Que dit notre société? Comment se prémunir du cyberharcèlement? Dans un instant, on accueille nos invités, mais pour l'heure, c'est Alia qui témoigne sur cette antenne. Alia, bonjour.
Bonjour.
Soyez la bienvenue sur RTL, Alia, merci. Vous avez 19 ans, vous êtes étudiante aujourd'hui en Vendée. Vous êtes également l'autrice d'un livre, Juste une histoire de nude, auto-publié. Alors, ce qui est fou quand on découvre votre histoire, Alia, c'est la façon dont le piège s'est refermé sur vous. On va replonger en 2015, vous avez 14 ans, vous êtes en classe de 3e. Comment est-ce qu'on peut définir votre vie à ce moment-là?
Oh ben une vie très simple en fait. J'ai toujours été quelqu'un de simple et de discrète.
Bien dans votre peau?
Oui, enfin en partie en fait. J'ai toujours été celle qui était moche, trop grosse, qui n'était pas appréciée des autres en fait. Quelqu'un qui a toujours cherché à se faire une place auprès des autres.
D'accord, ok. Donc, en quête de légitimité, en tout cas, auprès des autres, vous posant les questions que se pose toute adolescente de 14 ans. Vous êtes super active, vous êtes super entourée, ou il vous arrive aussi de vous ennuyer?
Plutôt l'inverse, en fait. J'étais plutôt... comment dire? Je n'étais pas quelqu'un qui s'ennuyait habituellement, mais j'avais envie de me sortir de ce quotidien.
Ouais.
Qui ne me correspondait pas en fait. Chaque jour, on me faisait sentir que je n'étais pas utile, par exemple, auprès des autres.
D'accord. Et donc, c'est là que vous avez décidé un peu de vous tourner vers des gens que vous ne connaissez pas et vous avez décidé d'aller sur quoi? Sur les réseaux sociaux?
Sur un jeu en ligne, ouais, qui s'appelle Habbo.
D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ce jeu en ligne?
Je rencontre une multitude de personnes, comme je le souhaitais au départ. Puis, ça me tombe sur la tête. Un jour, je rencontre un jeune garçon. Il me dit s'appeler Alexandre, avoir 17 ans. Alors moi, la question de différence d'âge ne me dérangeait pas. On a fait connaissance très rapidement. Et en fait, c'est quelqu'un qui... Comment dire? Je me sentais bien, en fait, auprès de lui. J'aimais me confier à lui. J'aimais lui raconter mes journées horribles au collège. C'est quelqu'un... alors, ça peut paraître incroyable, mais j'aimais me retrouver, entre guillemets, dans ses bras quand je n'étais pas bien.
D'accord. Donc, dans ses bras virtuels, hein, on est
oui,
bien d'accord, puisque
ça.
Vous ne le connaissiez pas. Vous l'avez d'abord découvert sous un pseudo, cet
c'est
Alexandre.
Ça, oui.
D'ailleurs,
oui.
On ne sait pas s'il s'appelle Alexandre, on y reviendra. Hein, mais enfin, et
oui.
Ce pseudo, c'était quoi?
Alors, sur le jeu, c'était BMW.
D'accord. Donc, derrière BMW se cache cet Alexandre qui vous comprend, alors que vous avez besoin d'être comprise, qui vous soutient, qui vous flatte, alors que vous n'êtes pas forcément bien dans vos pompes. Et cet Alexandre qui, on le comprend, prend très vite de l'importance, hein, même si effectivement, ce sont des bras virtuels, ce sont les bras dont vous avez besoin à ce moment-là. Dans un instant, on va se retrouver, vous allez nous expliquer comment justement ce fameux BMW a tendu un piège, a tissé une toile, hein, finalement, dans laquelle vous vous êtes retrouvé et qui s'est refermé sur vous. On se retrouve dans un instant, nous sommes en direct sur RTL, à tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL.
RTL.
Flavie Flamand sur RTL
jusqu'à 15h30.
Voilà, c'est une émission d'information et de prévention que l'on vous propose aujourd'hui en s'attaquant au sujet du cyberharcèlement, un sujet tentaculaire mais qui concerne beaucoup de Français. 53% des 18-30 ans ont déjà subi au moins une forme de cyberviolence. D'après un sondage IFOP pour France Info, cette proportion grimpe à 22%, soit un peu plus d'un jeune sur 5, car 11% disent avoir été déjà victimes de cyberharcèlement. Alors, on a Alia qui est en ligne avec nous, nos invités qui sont là pour nous éclairer, hein, qui vraiment pourront le faire en deuxième partie de l'émission, sont à votre écoute, Alia, car vous aviez 14 ans alors que vous vous ennuyiez, que vous aviez envie de faire des rencontres, vous vous êtes inscrite sur un jeu en ligne qui s'appelle Habbo. Sur ce fameux Habbo se présente un garçon qui s'appelle BMW, vous apprenez après qu'il s'appelle Alexandre, il a 3 ans de plus que vous, donc on ne peut pas se dire que ce soit une énorme différence d'âge. À ce moment-là, vous n'êtes pas forcément toujours très bien dans votre peau, vous manquez peut-être aussi de relations sociales et d'assurance, et puis ce garçon répond finalement à toutes vos demandes, quoi. C'est-à-dire que à tous vos besoins, je dirais plutôt. Parce que vous nous dites, j'avais besoin d'être dans ses bras, qui étaient des bras virtuels, mais vous aviez tout à coup le sentiment, quoi, vermeilleux d'avoir rencontré un ami ou même un amoureux.
Mais sur le moment, oui, ce n'est pas ce que j'attendais forcément. Enfin, oui. En parlant d'amour, c'était pas... ce que j'attendais, mais c'est vrai que c'est un sentiment que j'aimais avoir, en fait. J'aimais me retrouver avec lui et pouvoir lui confier tout ce que je ne pouvais pas forcément confier à mes parents ou à mes amis.
Est-ce qu'il vous montrait une photo de lui ? Est-ce que vous saviez à quoi il ressemblait, cet Alexandre ?
Bien, en fait, il m'a demandé de parler sur Snapchat. Alors, au début, je n'ai pas voulu, même si j'avais l'âge requis. Et on a parlé par mail et oui, il m'a envoyé des photos de lui, jeune homme blond aux yeux bleus.
Ouais.
Un jeune homme tout à fait charmant, ouais.
Ouais, un beau gosse de 17 ans, quoi.
C'est ça.
Ouais. Alors, ce fameux Alexandre, il vous en demande de plus en plus. C'est-à-dire qu'au début, il fait quoi ? Il gagne votre confiance et puis un jour, il vous fait une demande particulière.
Oui, c'est ça. Il installe un climat de confiance, d'amour, en fait. Il savait me faire sentir que j'étais belle et que j'étais importante à ses yeux. Mmh. Et un jour, il me demande une preuve d'amour. Mmh. Et là, c'est quelque part le plafond de ma chambre qui me tombe sur la tête parce que je ne savais pas quoi faire. Et si je ne lui envoyais rien, il me quittait. C'était le deal.
Alors, c'était quoi cette preuve d'amour ?
Eh bien, je ne savais pas au début, alors j'ai essayé de lui envoyer des poèmes, des choses comme ça en fait, que moi j'aurais attendu si je lui avais demandé une preuve d'amour.
Bah ouais, trop mignonne.
Et bah oui. Et puis lui, en fait, non, il attendait tout autre chose. Et le dernier jour, en fait, le troisième jour, le délai maximal qu'il acceptait, là il me dit, écoute, tu m'as rien envoyé, je te quitte. Et finalement, je lui demande une alternative et il me dit que je peux lui envoyer une photo de mes seins, et ça, ce serait la preuve d'amour idéale.
À quoi vous pensez à ce moment-là ?
Mes parents, à leur réaction, s'ils apprenaient ce que j'étais en train de faire. À mes amis, si jamais elles le découvraient. Et puis, si ce n'était pas lui, finalement, derrière le téléphone, mais plutôt, je ne sais pas, ses parents ou un de ses amis, son frère. Et j'ai pas ressenti l'envie, en fait, de lui envoyer cette photo-là. Je lui ai dit, c'est pas possible que tu puisses me demander une chose pareille, je ne peux pas. Quelque part, on se connaît pas, on s'est jamais vu. Et je lui ai dit, je pense pas que tu veuilles me voir, étant donné que tout le monde me dit que je suis grosse, moche, que je ne suis pas attirante.
Et alors ?
Donc pour moi, ce n'était pas quelque chose que je puisse faire. Pourtant, je l'ai fait. Sinon, je ne serais pas rendue là. Donc je lui ai envoyé une photo en cachant la moitié, en fait, de l'un de mes seins que je lui avais envoyé. Et lui, il me répond « Waouh, t'es magnifique, t'es la femme de mes rêves. Bien sûr que non, que t'es pas... bien sûr que t'es attirante.
» Et il vous pousse à le faire davantage, quoi.
C'est ça. Ça s'est enchaîné, en fait, très vite. Moi, je pensais qu'il allait me lâcher la grappe, comme on dit. Et finalement, non, il me demande d'en renvoyer une parce qu'il ne me voit pas assez. Et puis, tout s'enchaîne très vite. En fait, je tombe dans son emprise, comme on l'appelle.
Et ça va loin ?
Sauf que je ne me rendais Oui, ça va loin, ouais.
D'accord.
Pendant quelques mois, jusqu'en... Là, on était rendu en septembre quand je l'ai rencontré. Et ça se termine en janvier.
Ah ouais.
Et mal.
Alors, ça se termine mal, c'est-à-dire qu'il finit en janvier par vous quitter.
Oui, c'est ça, ouais. Ah. Un lundi soir, je rentre du collège, ma journée ce n'est pas très bien passée. Et évidemment, je reçois un long message. Alors, je m'attendais à avoir un message qui me dise « Bah, en fait, je suis désolée de pas t'avoir parlé pendant deux semaines. J'étais occupée, je t'ai préparé une surprise, quelque chose de bien. » Et puis finalement, il me dit qu'il me quitte, qu'il ne m'a jamais trouvée assez belle, que j'étais même dégoûtante, que je n'étais pas du tout... Enfin, je ne lui convenais pas. Et que si jamais... Enfin, je n'ai surtout pas refusé de lui envoyer encore des photos, des vidéos, parce que sinon, il diffuserait tout ce qu'il avait, tout ce qu'il a avec lui.
Vous avez dû vous effondrer, là.
Mmh. Ouais. Je me sentais déjà mal qu'il puisse me quitter comme ça. Je m'attendais pas du tout à ce message en fait. C'est le deuxième plafond de ma chambre qui, enfin,
la deuxième fois
que mon plafond me tombe sur la tête.
Bah oui, ma pauvre.
Et puis, quand il me dit que ça y est, là par contre il met les photos sur internet, qu'il les envoie à mes amis, à ma famille. Là, je commence à avoir peur et puis sur le coup, je le crois pas. Je lui dis non, t'as pas de photo, t'as jamais screené, parce que sur Snapchat, on voit quand on screen. Et puis lui, il me dit t'es rigolote, toi. Je dis, en fait, toutes les 10 minutes, il m'envoie une photo de moi. Là, je me vois et je suis en fait entre ses mains et je ne suis plus en possession de moi. En fait, je ne suis plus maître de moi. J'ai l'impression de plus avoir les commandes.
Alors, on va se retrouver dans un instant, parce qu'effectivement, vous n'aviez plus les commandes à ce moment-là, et c'est allé loin, la rumeur a enflé au collège, c'est allé loin, vous en avez aussi, vous avez fini par devoir en parler à vos parents, et puis vous vous êtes rendu compte que cet Alexandre n'est évidemment pas celui qu'il prétendait être. On se retrouve tout de suite, ok ? À tout de suite, Alia.
RTL.
On est fait pour s'entendre.
Bien, Jordana, le monde en main sur RTL.
14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Et bien, justement, Alia n'avait plus son monde en main lorsqu'elle a réalisé que ce fameux garçon qui se prénommait soi-disant Alexandre et qu'elle avait rencontré sur un jeu en ligne, que ce garçon allait la menacer, en tout cas, de diffuser des photos intimes, on peut le dire comme ça, Alia, des photos de vous dénudées, puisque du mois de septembre au mois de janvier, septembre 2015, janvier 2016, vous êtes prêté à ce jeu dangereux auquel vous soumettez ce fameux garçon ou homme, je ne sais pas, que vous n'aviez jamais vu. Vous avez réalisé qu'il savait beaucoup de choses sur vous.
Oui.
Et sur vos proches.
Notamment le surnom de ma grand-mère.
Ouais.
Impossible de deviner puisqu'elle n'était pas sur les réseaux sociaux. Mmh. Mes parents n'avaient jamais mentionné son surnom, enfin, il savait aussi mon adresse, l'adresse de mon collège. Mmh. Il savait tout, en fait.
Est-ce que ces photos ont été diffusées ?
Oui, certaines personnes de mon collège, alors que je n'étais pas forcément, donc ça tombait bien. Et puis, ça a fait le tour du collège ensuite.
Ouais.
Sur Internet, je ne les ai jamais vues, mais je n'ai jamais réellement su s'ils les avaient diffusées aussi.
En tout cas, elles ont été diffusées dans un espace proche. C'est-à-dire que, qu'elles soient diffusées sur Internet, c'est une chose, mais elles ont été diffusées dans un espace intime, c'est-à-dire celui de votre collège.
Mmh.
Ouais, donc d'élèves c'est qui ça. Vous croisaient, quoi.
Oui.
Bon, la rumeur a enflé. Vous avez senti à un moment donné que vous perdiez pied.
C'est ça. J'avais l'impression.
Qu'est-ce que vous avez fait pour alerter tout le monde ?
Je me suis scarifiée. Alors évidemment, ce n'était pas la solution qu'il aurait fallu adopter, mais quand on est jeune et qu'on est perdu, c'est la solution qu'on peut trouver pour mettre fin à ce cauchemar.
D'accord.
J'avais envie de tomber dans le coma, même parfois, c'est ce que je souhaitais.
D'accord.
Pour ne pas mourir et passer au-dessus de ça et qu'on puisse avoir peut-être pitié de moi et qu'on me laisse tranquille.
Et mais ça n'a pas, évidemment, ça ne s'est pas arrêté comme ça. Donc, vous vous êtes taillé le poignet. Votre mère a été, évidemment, prévenue de tout ça. J'imagine que ça a été la panique à bord. Est-ce que ça vous a aidé à parler de ce qui vous était arrivé ?
La première personne à qui j'ai parlé, c'est au directeur du collège. Alors évidemment, ce n'était pas simple.
Ouais.
Ce n'est pas ce qu'on veut quand on est victime de quelque chose comme ça,
Bien sûr.
Quand on se sent coupable.
Bien sûr.
Et pourtant, c'est comme si je n'avais plus poids sur mes épaules en permanence.
Mm-hmm.
Ensuite, on a porté plainte.
Ouais.
Ce n'était pas non plus quelque chose qui était super génial parce que bon, on n'a pas été accueillis comme on l'aurait dû.
Mmh.
Et puis bah, finalement, la plainte n'a pas abouti. On n'a jamais retrouvé l'auteur ou l'autrice de ces faits.
D'accord. Donc vous ne savez pas qui était Alexandre ?
Non, je n'ai jamais su.
Les photos ont cessé ? Le chantage
a été supprimé. Oui.
D'accord, ok. Et vous avez décidé, vous, de prévenir. Hein, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous allez à la rencontre d'élèves dans des collèges et dans des écoles primaires pour prévenir le cyberharcèlement.
Exactement.
Qu'est-ce que vous pourriez dire aux parents qui nous écoutent ou aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui ?
Bah, qu'il faut en parler. Mmh. Il faut arrêter de mettre ce sujet sous forme de tabou. Parce que c'est ça le danger, c'est quand on n'en parle pas. Parce que quand on est jeune, on va chercher à avoir des informations ou des réponses autrement.
Mmh. Et à trouver des solutions tout seul, alors que ce n'est pas possible.
C'est ça. Mmh.
Dans notre studio, il en est un qui vous écoute avec beaucoup d'attention, c'est Samuel Comblé. Bonjour.
Bonjour.
Soyez le bienvenu. Vous êtes psychologue clinicien, directeur des opérations pour l'association e-enfance. L'histoire d'Alia, elle est malheureusement tristement banale, que scandaleuse évidemment.
Exactement, oui. C'est vrai que j'écoutais tous ces mots avec beaucoup d'attention et je me retrouve dans ce témoignage, dans ce que j'entends au quotidien sur notre plateforme 3018 qui lutte contre les cyberviolences. Et cet endroit en fait réceptionne tous les jours des dizaines de témoignages un peu similaires. C'est vraiment le cas classique avec, on le voit, une jeune fille qui a envie d'être aimée tout simplement, de retrouver de la confiance au travers de liens qu'elle va pouvoir tisser. Et puis un auteur ou une autrice, on ne sait pas effectivement, va s'engouffrer dans la brèche et va profiter de sa faiblesse à ce moment-là pour pouvoir tirer un bénéfice. Alors là, il n'y avait pas d'argent, mais souvent il y a de l'argent au final dans la situation. Parce qu'on va faire pression, on va faire chanter la victime pour obtenir de l'argent. Là, c'était visiblement pour jouer avec sa peur. Ce que je note aussi dans le témoignage, c'est que cette jeune fille était très seule, sauf à la fin. Elle a fait appel aux adultes et elle l'a dit. Peut-être si c'était à refaire, elle en parlerait peut-être davantage aux adultes. Et c'est peut-être ça, une des premières leçons qu'on doit entendre dans ce témoignage. C'est surtout de libérer la parole, de ne pas rester seule, parce que c'est justement le principe du cyberharcèlement. C'est qu'on va isoler la victime pour faire en sorte qu'elle n'aille pas chercher des secours auprès des adultes de confiance.
Et tout en la taxant, tout en l'engluant de honte.
Exactement.
Parce que bien évidemment,
on va jouer sur la culpabilité, bien évidemment.
La culpabilité, et puis c'est souvent aussi des histoires de sexualité.
Exactement.
Surtout quand il s'agit des jeunes. Hein. Les jeunes sont principalement victimes de ce genre
exactement.
De chantage.
Et c'est vrai que plus on va se mettre en avant au travers de photos dénudées, plus forcément le piège va se refermer contre nous, parce qu'on n'a pas envie, évidemment, que ce soit diffusé.
Jamais faire ça. Alia, merci beaucoup d'avoir témoigné sur cette antenne. Alia, juste une histoire de nude, c'est votre livre auto-publié et on vous souhaite le meilleur. Merci à vous, Alia.
Merci beaucoup.
On va passer donc nous à l'information et ensuite on va retrouver Anaïs Condomine qui est notre invitée. Elle est journaliste au service Check News de Libération. A tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL jusqu'à 15h30.
Le cyberharcèlement, on en parle aujourd'hui avec nos invités. On accueille tout de suite Anaïs Condomine.
Bonjour.
Soyez la bienvenue sur RTL. Vous êtes journaliste au service Check News de Libération et vous êtes autrice du livre Cyberharcèlement, bien plus qu'un mal virtuel, coécrit avec Emmanuel Friedman, sorti en 2019 aux éditions Pygmalion. Et bing, vous écrivez sur le cyberharcèlement et vous voilà tout à coup victime quelques jours plus tard de cyberharcèlement. C'est-à-dire que vous êtes plongé finalement dans ce que vous aviez étudié pendant de très longues semaines.
C'est exactement ça, c'est l'ironie du sort. Effectivement, j'avais fait une enquête pour LCI en 2017 sur un forum qui s'appelle jeuxvideo.com et une partie de ce forum qui était soupçonnée à l'époque d'organiser des raids antiféministes, donc qui ciblaient vraiment des militantes. Et puis en enquêtant là-dessus, j'ai moi-même ensuite été évidemment prise à partie.
Voilà, et violent. Vous avez vécu ça, et donc c'est assez violent, et ça peut aller très loin, c'est-à-dire que là, on a écouté il y a un instant le long témoignage d'Alia, mais finalement, le cyberharcèlement touche tout le monde, pas que les jeunes.
Bien entendu. Moi, j'ai été ciblée en tant que journaliste, en tant que féministe, et effectivement, ça peut toucher tout le monde. Tout le monde peut aussi faire du cyberharcèlement.
On va revenir justement sur le profil des harceleurs.
En ce qui me concerne, oui, ça a duré 4 jours, 4 nuits pleines. Dit comme ça, ça peut paraître pas très long. En réalité, c'était quand même assez intense. Hein. J'ai reçu évidemment des insultes, des menaces de mort, des menaces de viol, évidemment. J'ai été inscrite sur des sites pornographiques. Toutes mes infos personnelles ont été dévoilées sur Internet.
Ouais. Donc ça fait beaucoup. Et surtout, quand on ne s'y attend pas, ça nous arrive sur le coin de la figure. Alors, il est des vulnérabilités, on l'a bien compris, notamment pour les jeunes. Hein. Vous le disiez très bien, Samuel Comblé, puisque vous êtes psychologue, clinicien et directeur des opérations pour l'association e-enfance. Ça touche les jeunes. Il y a le cyberharcèlement scolaire. Il y a le cyberharcèlement sexiste, dont vous parliez il y a un instant aussi, Anaïs. Et puis, c'est toute la différence qui est attaquée, finalement. On a l'impression que le cyberharcèlement se fait sur le lit des patients tristes, sur le lit de la haine, sur le lit de la différence.
Exactement, comme à l'image du reste de la société, en fait, ouais. De la société dans son ensemble. Nous, c'est ce qu'on essaie de démontrer dans le livre, c'est que les réseaux sociaux, les géants du web, tout ça, c'est pas des trucs qui existent comme ça de manière éthérée au-dessus de nos têtes, quoi. C'est une partie de nos vies. Moi, c'est mon outil de travail, par exemple, Twitter. Et donc, évidemment, pourquoi ce serait exempté de sexisme, de racisme, d'antisémitisme, de LGBT-phobie, de tout ce qu'on veut ? C'est exactement le reflet, peut-être en forme de miroir grossissant, parfois, de la société dans son ensemble.
Samuel Comblé, est-ce que tout le monde peut être victime de cyberharcèlement ?
Alors oui, à partir du moment où vous êtes sur Internet, vous êtes une cible potentielle.
Alors quand on dit sur Internet, qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Est-ce que c'est Internet, les réseaux sociaux ? Est-ce que c'est Facebook ? Est-ce que c'est Instagram ?
C'est tous les réseaux sociaux qui peuvent exister aujourd'hui. C'est pas que. À partir du moment où vous êtes sur un jeu vidéo, par exemple, je crois d'ailleurs Alia en a parlé tout à l'heure. À partir du moment où vous êtes sur un jeu vidéo, vous êtes forcément en ligne avec d'autres personnes et ça constitue en soi une forme de réseau social, même si le but du jeu c'est de s'amuser. Mais ça, à partir du moment où on est en lien avec d'autres personnes, c'est une forme de réseau. Vous pouvez être sur YouTube aussi harcelé, vous avez des commentaires sous les vidéos, il suffit de vous envoyer des messages insultants et que ces messages soient relayés et vous serez là aussi harcelé. Donc il y a plein de manières. On a vu pendant le confinement des façons aussi d'être harcelé même si vous n'êtes pas présent sur Internet. On a beaucoup entendu parler des comptes Ficha pendant le premier confinement, ce qu'on appelle le grand confinement. Le compte Ficha c'est assez simple, c'est en général des garçons qui propose à d'autres garçons d'une même classe de récolter tout ce qu'ils peuvent avoir sur les filles de la classe. Donc des photos, évidemment, si possible dénudées ou en mauvaise posture. Et on va aller constituer une affiche. Ficha, affiche, c'est du verlan. On va mettre ces différentes photos sur une espèce de composition numérique. Et cette composition va être mise à un moment donné, bien précis, sur Internet, sur un réseau social, sur un fil de discussion. Et on va inviter, évidemment, tous ceux qui ont collaboré à la constitution de cette affiche à venir regarder, en fait, ces filles mises en pâture, hein, sur cette affiche avec évidemment plein de commentaires désagréables. Et ce qu'on a vu pendant le confinement, c'est qu'il arrivait qu'on prenne des photos qui n'avaient absolument rien à voir avec les jeunes filles en question, mais qu'on décide que c'était ces filles-là avec,
voilà,
en mettant leur nom,
etc. Voilà, parce qu'on voit pas forcément un visage, on
Exactement.
Peut voir une main, on peut voir un détail
Exactement.
Physique, un petit tatouage, et on va donc décréter que c'est Flavie, Alexandra
Exactement.
Ou Anaïs.
Et là, c'est bien compliqué de se défendre parce que comment prouver que vous n'êtes pas effectivement la personne sur la photo et des comptes Ficha, on en a fermé des dizaines et des dizaines depuis un an. Et j'invite les personnes qui nous appellent, si un jour elles ont ces situations-là à vivre, à nous appeler sur la plateforme 3018, parce que nous, on est tiers de confiance auprès de la majorité des réseaux sociaux qui existent aujourd'hui, et on a les moyens de faire retirer très rapidement ces contenus et de faire fermer les comptes pour tout simplement que les choses s'arrêtent le plus rapidement possible, parce que une des grandes difficultés sur Internet, c'est la viralité, c'est la vitesse avec laquelle les messages vont se diffuser, et donc il faut agir très vite et signaler le plus tôt possible.
On va se retrouver dans un instant parce que vous parlez des jeunes femmes et on a l'impression, mais vous allez me le confirmer ou pas, hein, que les femmes, les filles sont beaucoup plus victimes de cyberharcèlement que les garçons. Et puis on va s'intéresser aussi au profil des harceleurs. Mm-hmm. Parce que qui était derrière ce BMW ? Qui était derrière ce prénom Alexandre ? Est-ce que c'était un adulte ? Est-ce que c'était une femme ? Est-ce que c'était un pote d'Alia à l'école ? Un camarade de collège ? On va y revenir dans un instant avec vous sur RTL.
RTL.
Flavie Flamand. Bon après-midi sur RTL.
RTL. Toujours avec vous.
14h30, 15h30.
Flavie Flamand sur RTL.
Merci. Merci d'être avec nous. Samuel Comblé, Anaïs Condomine, est-ce que les femmes sont plus victimes de cyberharcèlement que les hommes, selon vous, Anaïs ?
Alors, c'est ce que, d'une part, c'est ce que j'ai observé le peu de fois où je suis allée dans les tribunaux pour voir des cyberharceleurs jugés. C'était tous des hommes, donc empiriquement, oui. Et deuxièmement, il y a quand même un chiffre de l'ONU qui dit qu'en effet, 73% des femmes ont déjà connu une forme de violence en ligne. Donc, effectivement, comme... Voilà, moi c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour moi, de toute façon, les réseaux sociaux, c'est le reflet de la société. On vit dans une société sexiste, donc il n'y a pas de raison que les femmes soient moins attaquées qu'ailleurs.
Et notamment sur les réseaux. En plus, quand on peut être anonyme, on reviendra au profil des cyberharceleurs. Est-ce que les hommes disent qu'ils sont victimes, Samuel Comblé, ou est-ce qu'ils préfèrent se taire ?
Malheureusement, ils préfèrent se taire, même si de plus en plus la parole se libère. C'est vrai que les statistiques parlent d'elles-mêmes, c'est plus les femmes qui sont harcelées. Elles ne sont pas forcément harcelées pour les mêmes raisons que les garçons. Les femmes sont souvent harcelées pour des problèmes physique, de mise en avant de leurs attributs, de ce qui fait une femme en fait, et on va les agresser à ce sujet-là. Les hommes sont plutôt interpellés vis-à-vis de leur virilité, de leur aspect physique aussi, mais sous l'angle de leur force, de leur puissance physique. Et voilà, on voit qu'il y a des petites différences, mais c'est vrai que les garçons n'échappent pas au harcèlement, et je pense que c'est important de le dire aux parents qui nous écoutent pour de temps en temps aborder le sujet aussi avec leurs adolescents, parce que la première réaction d'une personne harcelée, c'est de se recroqueviller sur elle-même, de considérer qu'elle est coupable de ce qui lui arrive, et surtout pas d'aller interpeller ses parents. Et surtout sur des situations où souvent la nudité est mise en avant, où la relation amoureuse est mise en avant, on a parfois envie, et c'est normal à l'adolescence, de pouvoir garder son petit jardin secret, de ne pas aller en parler aux parents.
Non, c'est difficile d'aller voir des parents en expliquant qu'on s'est dénudé devant une caméra, ou qu'on s'est masturbé devant une caméra. Enfin,
c'est compliqué.
C'est vraiment du domaine du viol.
De l'intime. Exactement. Et pour autant, et le témoignage d'Alia était très fort pour ça. On voit aussi quand même que s'adresser aux parents est une partie de la solution, voire souvent la solution.
Voilà, et puis effectivement que la prévention passe aussi effectivement par l'écoute des parents qui parfois peuvent précéder les conversations avec leurs enfants. Le harcèlement, ça commence à partir de quoi ? De deux messages ?
Il n'y a pas de chiffres
très subjectifs,
exact,
c'est une question de ressenti.
Exactement, une question de ressenti, oui.
Qu'est-ce qu'un raid numérique ?
Un raid numérique, c'est le fait de harceler en meute, de se mettre à plusieurs, à centaines, des milliers de personnes sur une seule personne qu'on va cibler. Et les raids numériques, ça a fait l'objet quand même d'une loi en 2018 qui indique que désormais, même si on met un seul message qui fait partie d'un harcèlement en meute, d'un raid numérique, alors on peut être condamné et poursuivi, en tout cas, pour cyberharcèlement, sans que ce soit répété.
Si quelque part on participe au raid en rediffusant un message, en aidant à sa propagation...
En ajoutant sa brique, en fait. En ajoutant sa propre brique à un mur immense d'horreur.
Parce que c'est ça, en fait, hein, Samuel Comblé, la force des réseaux sociaux, c'est l'anonymat. Et l'effet de meute,
exactement.
L'effet de bande, c'est-à-dire que est-ce que les harceleurs, je ne parle pas de ceux qui lancent le raid numérique, mais de ceux qui y participent d'une façon ou d'une autre, le feraient s'ils étaient seuls ? Est-ce qu'on devient plus con en groupe ou plus harceleur en groupe ?
C'est une bonne question. Une autre façon aussi de prendre la question, c'est parfois de demander à certains jeunes si tu devais dire exactement face à la personne à qui tu t'adresses le message que tu comptes envoyer par voie numérique, est-ce que tu oserais ? Et parfois, on se rend compte que les jeunes sont bien conscients qu'effectivement, c'est peut-être pas tout à fait des choses à dire en face à face, physiquement, et donc ils s'épargnent d'envoyer le message.
Ouais. Ouais, mais l'effet de groupe, on est bien d'accord.
Et l'effet de groupe va effectivement jouer évidemment dans l'emballement, parce qu'on va déléguer au groupe la responsabilité de penser son propre comportement. C'est le groupe qui m'a dit ou j'ai pensé que le groupe de toute façon favoriserait les choses. Et c'est d'ailleurs une des problématiques, c'est qu'on se décharge du coup de la responsabilité de qui se passe, parce que c'est pas nous qui la prenons.
Anaïs Condomine.
L'effet de meute, sans aucun doute. En revanche, sur l'anonymat, je suis un peu plus réservée. Je pense que l'anonymat, c'est souvent pointé du doigt comme étant le grand coupable de toutes ces choses-là. En réalité, le vrai anonymat, il existe très très peu sur Internet. Encore faut-il qu'il y ait les moyens mis en place par la police et la justice pour retrouver les personnes derrière. Mais en réalité, il n'y a pas grand monde, à part les grands hackers trop forts, mais ce n'est pas, généralement pas eux qui vont
harceler. Ce que je veux dire, c'est que BMW, c'est Alexandre ou je ne sais pas qui se cache derrière ce prénom ou ce pseudo. Évidemment, il faut le savoir, la police remonte très facilement.
Très facilement. Là, dans le cas d'Alia, visiblement, elle a porté plainte qui n'a pas abouti et donc ils ne sont pas allés rechercher.
Mais parce que ça n'a pas été pris en considération.
Malheureusement, il n'y a pas assez de moyens puis il y a encore aussi de la prévention à faire là-dessus.
Beaucoup de causes, malheureusement. On va se retrouver dans un instant. Qui sont les harceleurs et quels sont les messages de prévention que l'on peut faire passer ? Ce sera tout de suite sur RTL.
On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. 15h30.
Flavie Flamand sur RTL.
Bon, en tout cas, aujourd'hui, on ne parle pas d'une chanson très agréable
mais c'est plutôt la cacophonie du cyberharcèlement à laquelle nous attaquons. Les conséquences psychologiques, Samuel Comblet, du cyberharcèlement.
Alors elles sont multiples et évidemment très, personnelles. Mais c'est vrai qu'on sent quand les victimes nous parlent de ce qu'elles ont vécu, un effondrement total. Tout à l'heure, Alia le disait, on a l'impression que le plafond s'écroule sur notre tête. On a l'impression presque d'une intrusion en fait de l'auteur dans notre vie personnelle. Donc on se sent en permanence épié. Les victimes aussi indiquent qu'elles sont très fatiguées parce que on a l'impression qu'il n'y a plus aucun espace de vie protégé, parce que quand on est sur internet, c'est à tous les moments de notre vie, jour et nuit, on a l'impression que toute la terre connectée peut nous regarder à tout moment. Et donc il y a ce sentiment d'intrusion et surtout ce sentiment de culpabilité qui est très fort, qui revient assez fréquemment chez les victimes. C'est je mérite ce qui s'est passé parce que je suis trop grosse, je suis pas comme il faut, j'ai peut-être eu un comportement que j'aurais eu différemment si c'était à refaire. Et cette culpabilité n'aide en rien évidemment la victime et au contraire la fait s'enquister dans la situation.
Voilà, et puis effectivement avec des angoisses chroniques évidemment s'installent. Anaïs Condomine, qui sont les harceleurs? Parce que là on parle des victimes, mais est-ce que ça peut être, est-ce que c'est forcément, pardon de le dire comme ça, le cliché du hacker paumé dans son grenier au fin fond de la campagne?
Ce serait plus simple, ce serait plus simple
c'est dans tous les milieux, ça peut être mon collègue de bureau,
ça peut être tout le monde évidemment. Ce que j'ai pu voir au tribunal par exemple, il y en avait des paumés, il y en avait des très bien insérés dans la société avec un job et une famille et voilà. Donc évidemment,
il y a des parents.
Il y a des parents, il y a de l'entourage, il y a des amis, évidemment.
Parfois, on peut harceler un membre de sa famille.
Ça peut sûrement arriver. En tout cas, c'est sûr, ça peut être le produit de collègues, de connaissances, de membres d'un même cercle social, évidemment. En fait, je pense qu'on peut tous et toutes vraiment devenir des harceleurs potentiels parce que. Il y a vraiment une question de la responsabilité en ligne aussi, quoi. De chacun se poser la question de dire, voilà, à partir du moment où on a plus de 1000 followers, de se dire, et si je pointe cette personne du doigt, qu'est-ce que ça peut avoir pour conséquence? Et est-ce que moi, du coup, derrière, je lance pas des gens à sa suite aussi?
C'est atroce. Mais ça donne les pleins pouvoirs à ceux qui, même un sentiment de pouvoir aux imbéciles, quoi. Mais de lancer un raid numérique et de voir que ça suit, ça donne un sentiment de pouvoir aux imbéciles. On le voit dans les médias, certains qui s'attaquent, des animateurs télé qui s'attaquent, qui envoient tous leurs fans pour s'en prendre aux autres. C'est aberrant ce qui est
Ça donne de l'audience, en tout cas, effectivement. Ça Internet de permet de faire le buzz et d'attirer l'attention sur soi. Et on sait que beaucoup sont friands de cette attraction
Ça
donne le mauvais exemple, effectivement. Mais c'est vrai que c'est devenu presque une habitude pour certains d'entre eux de pouvoir se faire connaître et se nourrir en fait de la détresse des autres. Alors il n'y a pas forcément toujours que le buzz. Il peut y avoir de la colère aussi, tout simplement. Mmh. Il peut y avoir de l'ennui. On l'a vu beaucoup chez les jeunes pendant le confinement, où les jeunes nous disaient j'ai rien d'autre à faire, donc j'en profite.
Ça, c'est fou, ça. C'est ce que vous me disiez hors antenne.
Et c'est vrai que ça pose question parce qu'on se dit il y a tellement de façons, même en période de confinement, pour s'occuper, pourquoi en passer par là. Et puis moi je trouve qu'il y a aussi une catégorie de harceleurs, c'est tous ceux qui vont mal, les gens qui vont intérieurement pas suffisamment bien pour pouvoir être épanouis et en relation correcte avec d'autres personnes, et qui vont chercher un bouc émissaire pour faire porter à l'autre son mal-être et puis une possibilité d'aller mieux.
Allez, un message de prévention chacun, qu'est-ce qu'on peut dire à Anaïs Condomine?
Alors, ne pas écouter les conseils qui disent ferme Twitter, ferme ton portable, c'est pas grave, etc. Moi, ce que je conseille, c'est d'avoir une personne de confiance à côté de soi, à qui on peut donner le smartphone ou l'ordinateur pour qu'il fasse lui-même le nettoyage. Et
ne
ainsi,
pas lire
nous
les messages,
invite, voilà, puisque nous, pour signaler les messages, il faut bien qu'on y fasse, qu'on y soit confronté, et le mal est fait. Donc, avoir quelqu'un à côté, évidemment, capture d'écran. Capture d'écran, et ne pas hésiter à porter plainte, même si c'est plus facile à dire qu'à faire.
Voilà, parce qu'il faut effectivement avoir un accueil de cette parole qui n'est pas toujours simple.
Pour les plus jeunes, c'est pareil. rester seul, de pouvoir apprendre déjà à utiliser les réseaux sociaux et les différents outils qu'on peut utiliser pour avoir accès à Internet, parce que être en lien numérique, ça s'apprend. C'est aussi apprendre à savoir s'arrêter quand on se sent, quand on commence à sentir qu'il y a une situation un peu étrange, de pas la laisser se détériorer d'une certaine manière. Prendre des captures d'écran aussi, parce qu'il va falloir se défendre à un moment, donc montrer des preuves, signaler, bloquer. Et puis une dernière chose pour revenir sur le témoignage de tout à l'heure, si les jeunes veulent se montrer nus à leurs petits copains, pourquoi pas, mais si vous le faites, faites-le bien. Je m'explique, soit vous prenez votre tête, soit vous prenez votre corps dénudé, mais pas votre tête et votre corps dénudé en même temps. Comme ça, si le corps se balade sur Internet, il n'y aura pas la tête, on ne pourra pas savoir
et
que c'est vous.
Et pas d'infos, évidemment, aucune info personnel qui pourrait permettre de vous reconnaître. Merci à vous deux d'avoir accepté mon invitation. Donc merci. Samuel Comblet, je rappelle donc l'association e-enfance et le 3018, la plateforme contre les cyberviolences, normalement pour les jeunes, mais ouverte à tous.
Pour tout le monde, de 9h à 20h, du lundi au samedi.
Merci beaucoup. Anaïs Condomine, merci. Je rappelle que vous êtes au service Check News de Libération. Et votre livre, coécrit avec Emmanuel Friedman, c'est Cyberharcèlement, bien plus qu'un mal virtuel. Merci beaucoup, merci. Anaïs. À bientôt. Merci à vous tous pour cette heure éclairante et préventive, évidemment. On se retrouve demain dès 14h30 en direct sur RTL pour de nouvelles conversations. D'ici là, prenez grand soin de vous. Je vous embrasse. À demain.
RTL. On est fait pour s'entendre.